France Inter, franceinter.com.
Mensaje del comandante en jefe. Queridos compatriotas, les comunico que no aspiraré ni aceptaré, repito, no aspiraré ni aceptaré el cargo de presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe.
...2000 ans d'histoire. Je n'aspirerai ni n'accepterai la charge de président du Conseil d'État et de commandant en chef. C'est par ce message laconique que le 19 février dernier, Fidel Castro mettait fin au pouvoir qu'il avait exercé sans partage pendant près de 50 ans. Un demi-siècle pendant lequel il a tenu tête aux États-Unis et maintenu en place un des derniers régimes communistes du monde. Un demi-siècle pendant lequel les Cubains ont vécu et vivent encore aujourd'hui dans le culte d'une révolution que la majorité d'entre eux n'ont pas connue. Elle avait commencé le 2 décembre 1956, quand, quelque part sur la côte est de Cuba, un bateau débarquait une poignée de guérilleros barbus venus du Mexique pour renverser la dictature du général Batista.
Le 2 décembre 1956, le bateau Granma est arrivé sur la plage Coloradas. À son bord, Fidel Castro et 82 révolutionnaires. Commence alors une époque d'héroïsme et de sacrifice pour libérer Cuba. Ici Radio Rebelde, depuis les montagnes d'Oriente, territoire libre de Cuba.
Viva Cuba libre! Libertad o muerte.
Nuestra Cuba, con valentía, va triunfando y triunfará.
Pierre Rigoulot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut d'Histoire Sociale, spécialiste de l'histoire du communisme et auteur d'un livre, Coucher de soleil sur la Havane, qui a été publié l'an dernier. Chez Flammarion, alors le coucher de soleil, ben, il est maintenant couché le soleil, puisque Fidel Castro n'exerce plus le pouvoir depuis hier, il est remplacé par son frère. Mais une question que tout le monde se pose, est-ce que, au fond, le retrait du pouvoir de Castro, certes, c'est une page qui s'est tournée, est-ce que c'est la fin du castrisme ?
D'abord, il n'est pas tout à fait retiré puisqu'il est encore secrétaire général du Parti communiste cubain. Donc, il est difficile de dire que Fidel Castro, même malade, même gardant la chambre, est tout à fait absent du pouvoir. Et je crois que hier, on en a eu une preuve magistrale puisque, au fond, entre lui et son frère, il y a un ancien de la lutte dans la Sierra Maestra, Juan Ramón Machado Ventura, qui a été nommé deuxième vice-président. Et puis, la personnalité même de Raúl Castro doit être prise en compte. Raúl, c'est celui qui a toujours été dans l'ombre de Fidel. Certainement, il n'est pas simplement dans l'ombre. Ça a été un personnage assez important. Au fond, il y a une complémentarité entre les deux frères qui existait. Autant il y a un charisme propre à Fidel, il y a une décision, il y a une capacité à prendre des décisions dans des moments difficiles tout à fait remarquables. Un charisme également que n'a pas le frère. Par contre, le frère, il a un talent d'organisateur tout à fait remarquable. Il a fait passer les guérilleros au niveau d'une véritable armée.
Et puis surtout, il s'est battu auprès de son frère depuis le début, c'est-à-dire avant même la révolution. Il était avec lui lors de cette fameuse attaque
contre
de 1953, avant même le fameux débarquement dont on parlait contre la caserne de la Moncada le 26 juillet 1953.
Oui.
Et puis on le retrouve aussi sur ce bateau, le Granma, qui débarque avec 82 guérilleros. Il y en a 12 qui ont survécu, dont Raoul, et qui est avec son frère donc pour prendre d'assaut le le régime cubain. Alors, comment est-ce que 12 personnes, devenues évidemment beaucoup plus nombreux, mais ont pu en 2 ans renverser un régime comme le régime et l'armée de Batista, Pierre Rigolo ?
Eh bien, je crois que ça en dit long sur le manque de détermination du régime de Batista à survivre et de l'armée de Batista à lutter. S'en dit long aussi sur la très grande habileté de Fidel Castro et des dirigeants cubains, oui, des dirigeants castristes, à se présenter comme des démocrates, des révolutionnaires sans doute, mais des révolutionnaires qui voulaient instaurer la liberté, la justice, l'honnêteté dans un pays qui était largement marqué par la corruption. Batista a été élu et bien élu en 1940. Il sentait qu'il n'allait pas être réélu en 1952 et il reprend le pouvoir. Il n'est pas vrai que ce régime est sans intérêt. Je pense par exemple au fait que la presse est relativement libre et c'est assez amusant de voir que des journalistes montent dans la Sierra Maestra, interviewent Fidel et redescendent sans plus de problèmes que cela. Par contre, ce régime finalement qui se développe malgré de fortes fractures sociales qui se développent sur le plan économique est en même temps un régime dirigé par un homme qui perd de sa, j'allais dire, de son panache, de son envie de diriger. On présente Batista comme jouant la canasta pendant les derniers mois, écoutant les écoutes téléphoniques de ses services secrets et laissant la répression qui fut dure pendant les derniers moments à sa police politique.
Un Batista qui quitte le pouvoir en décembre 1958, quelques jours avant l'entrée triomphale de Castro à La Havane, en janvier 1959.
Ici Philippe Joly qui vous parle de La Havane. Je viens de voir véritablement une ville en folie. Depuis 2h30 de l'après-midi, moment où j'ai été à la rencontre de Fidel Castro et où j'ai vu le flou de tous les gens de La Havane se précipiter vers lui, véritablement les trottoirs lancés vers cet homme, des milliers de gens dans une espèce d'hystérie. Je n'ai assisté qu'à des scènes de joie, d'enthousiasme et de délire.
Fidel Castro est là, devant moi. Écoutez les cris. Il est en train de parler.
El pueblo escucha. Para alcanzar un momento decisivo de nuestra historia.
Castro leur dit que c'est un moment décisif dans l'histoire de la révolution. La tyrannie a été vaincue.
La alegría es inmensa.
La joie est immense.
Et sin embargo, queda mucho por hacer.
Et cependant, il reste encore beaucoup à faire.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel. Contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Bien eso llegó Fidel, et là est arrivé Fidel, une chanson de Carlos Puebla en 1959, l'année d'une révolution, Pierre Rigolo, qui n'était pas encore communiste. Il y a ce texte ou ces déclarations de Castro, nous ne savons pas encore très bien ce que nous sommes en train de construire, mais nous ne sommes pas communistes.
Oui, pendant 18 mois à peu près, on ne cessera de dire que nous ne sommes pas communistes. Et de fait, les communistes ne sont pas, dès le départ, avec lui dans la Sierra Maestra. Ils envoient des gens assez tard dans la montagne prendre contact avec lui, avec la guérilla, mais le Parti communiste, qui s'appelle le Parti socialiste populaire, est un peu réservé à l'égard de cette, je dirais, de cette manière d'envisager la prise de pouvoir. Et lorsque a lieu, c'était un peu plus tôt, en 1953, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la prise de, enfin, la tentative contre la caserne Moncada, le PSP, le Parti socialiste populaire, a dénoncé très clairement cet aventurisme petit bourgeois.
Alors, de leur côté, les États-Unis ne se méfient pas trop de Fidel. Il y a même quelques manifestations de sympathie. Il y a un sénateur, le sénateur Kennedy, qui dit « mais c'est pas grave, ce n'est, Castro n'est qu'un bolivar cubain ».
Oui, Fidel Castro ne prétend pas couper les liens avec les États-Unis. Bien au contraire, il se rendra au Venezuela, puis aux États-Unis. Il a des contacts avec les dirigeants américains. Je dois dire que ça ne se passe pas très bien et la rencontre avec Nixon a dû être relativement froide.
Alors, ça tourne assez mal parce que les États-Unis refusent d'acheter le sucre que Cuba vendait jusque-là aux Américains. Inversement, Castro nationalise les entreprises américaines. Les États-Unis décrètent un embargo qui s'est même aggravé depuis 1960. Et Castro alors se tourne, et en quelque sorte poussé dans les bras de Khrouchtchev, se tourne vers l'URSS. On l'écoute devant des journalistes américains, justement, quelques semaines avant une tentative d'invasion de l'île par les anticastristes, soutenus par les États-Unis. C'était en avril 1959.
What do you want that we do? You leave us without petroleum. Khrouchtchev, eat petroleum.
Que voulez-vous que nous fassions? Vous nous privez de pétrole, Khrouchtchev nous en donne. Vous refusez notre sucre, Khrouchtchev nous l'achète. Vos dirigeants parlent d'agresser Cuba, Khrouchtchev parle de défendre Cuba. Khrouchtchev est un ami.
Cuba a été envahi ce matin par des unités de mercenaires en provenance de la Floride et du Guatemala. J'accuse solennellement le gouvernement des États-Unis d'avoir déclenché contre Cuba une guerre d'invasion en utilisant ses ressources, ses armes et ses avions pour ramener Cuba dans sa condition honteuse de satellite de l'impérialisme nord-américain. Ce réquisitoire a été prononcé il y a quelques instants devant la commission politique de l'Assemblée générale des Nations unies par le ministre cubain des Affaires étrangères, M. Raúl Roa.
La participation nord-américaine en la agression que se desarrolla contre Cuba.
La participation nord-américaine dans l'agression contre Cuba a été dramatiquement compromise ce matin. Nos batteries antiaériennes ont détourné un avion militaire nord-américain qui bombardait la population civile.
Et c'était l'affaire de la baie des cochons en avril 1961, j'ai dit en 1959, c'est en 61 que ça se passe, là, vraiment la rupture définitive avec les États-Unis. Car si ceux qui ont débarqué étaient des exilés cubains, en réalité ils étaient soutenus par la CIA, Pierre Rigoulot.
Ils étaient soutenus par la CIA, mais
logistiquement.
En même temps, et c'est certainement une des raisons de l'échec de cette tentative, les Américains ne sont pas allés au bout de leur soutien, je dirais. Comme vous l'avez dit très justement, la vision de l'île n'est pas toute noire pour Kennedy. Et Kennedy n'est pas sur les positions d'Eisenhower. Ça a commencé sous la présidence d'Eisenhower, la préparation. Mais Kennedy, finalement, est relativement hésitant. Il n'y a pas de couverture aérienne. Et puis, il y a certainement la sous-estimation de la mise en place des forces armées cubaines, de l'aide déjà soviétique sous forme d'armes. Et très rapidement, comme vous le savez, cela tourne à l'échec.
Et surtout, ça fait basculer Castro, alors ouvertement cette fois-ci, dans le communisme. Je suis marxiste léniniste et je le serai jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est Castro qui le dit en décembre 61, quelques mois après la baie des cochons. Et il se tourne vers l'URSS, qui vont à sa demande, ou je ne sais pas si c'est l'initiative des soviétiques, mais ça c'est une affaire infiniment plus grave, vont installer des missiles thermonucléaires de moyenne portée à Cuba, c'est-à-dire à un peu moins de 200 km des côtes des États-Unis.
Oui, avant cette affaire, cette malheureuse affaire pour les anticastristes, On insiste sur le fait que la révolution est verte, non pas rouge, mais verte comme les palmes, n'est-ce pas, des arbres de Cuba. Après, c'est la revendication du caractère socialiste de la révolution. Et Fidel Castro, tout à fait conforme à l'image que nous en avons, affirme qu'il était marxiste-léniniste depuis sa jeunesse, en tout cas depuis la période où il était étudiant. Nous arrivons donc à cette période, à ce moment d'octobre 1962 de la confrontation, l'affaire des missiles, l'affaire des fusées, comme on disait encore à l'époque. Et ce qui a été très frappant pour les historiens, et on le sait d'autant plus que les lettres de Fidel Castro ont été publiées depuis, les lettres à Khrouchtchev, c'est que lui ne voulait pas céder. Et on en voudra beaucoup, beaucoup à Khrouchtchev, chez les castristes, d'avoir cédé si rapidement à la fermeté américaine et à la fermeté de Kennedy.
Khrouchtchev cède, mais on ne le dit pas toujours. En contrepartie, il obtient quand même de la part des États-Unis la garantie qu'ils ne s'en prendront, ils n'attaqueront plus jamais Cuba. Donc c'est quand même une garantie soviétique. Cela dit, vous le dites effectivement, Pierre Rigoulot, les relations entre l'URSS et Cuba n'ont pas toujours été très bonnes, notamment avec Che Guevara ou à cause de Che Guevara.
Mais c'est-à-dire que dans les années 60, et je dirais même immédiatement, c'est-à-dire en 1959, il y a une façon de voir le développement des idées révolutionnaires par Fidel Castro, qui privilégie, il n'y a aucun doute, la lutte armée. Vous savez, très vite, Fidel Castro, vous l'avez souligné, se trouve en confrontation avec les États-Unis. Probablement, ceux-ci l'ont poussé du côté du communisme, mais Fidel Castro a très vite tenté un certain nombre de coups. Il envoie des gens tenter un débarquement au Panama, en Haïti, à Saint-Domingue. Enfin, ces tentatives échouent, mais c'est pour dire qu'il y a une volonté de privilégier la lutte armée. Et en effet, ça va continuer dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, mais pas seulement d'Amérique latine, mais également en Afrique, puisqu'on retrouve le Che Guevara au Congo en 65.
El mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras.
L'ennemi qui nous attaque, qui attaque nos côtes et nos terres,
el mismo que ataca a los demás,
est le même que celui qui attaque les autres.
Decimos y proclamamos,
c'est pourquoi nous disons et proclamons
que
les combattants cubains apporteront leur aide au mouvement révolutionnaire partout dans le monde.
Les combattants cubains apporteront leur aide à tous les mouvements révolutionnaires dans le monde. C'est Fidel Castro lui-même, à la fin des années 60, qui cherche à exporter. Non seulement il défend son île contre toute entreprise éventuelle des États-Unis, mais il veut exporter sa révolution, Pierre Rigoulot.
Oui, on a dans les années 60 une situation très particulière. Cuba est l'allié de l'Union soviétique. Cuba est de plus en plus lié à cette Union soviétique. Et en même temps, elle prône, Fidel Castro prône, une voie pour la prise de pouvoir qui est la lutte armée. Il ne s'agit donc pas de la coexistence pacifique telle que la met en avant jusqu'en 64, donc Khrouchtchev, un peu moins, mais encore Brejnev après la chute du premier. Fidel Castro aide effectivement les révolutionnaires du monde entier, plus particulièrement d'Amérique latine. En 1967, il y a une énorme réunion à La Havane avec les leaders du tiers-monde, avec les guérilleros de par le monde. C'est la fameuse réunion tricontinentale. On a l'impression à cette époque que c'est le début d'une, je ne sais pas comment dire, une troisième internationale et demie.
Alors donc, il y a ces interventions à l'extérieur, vous les avez évoquées, et l'armée, pas seulement des guérillas que l'on soutient comme au Salvador, au Guatemala ou au Nicaragua, mais l'armée cubaine mobilisée en Éthiopie, mobilisée en Angola pendant 11 ans, entre 77 et 88, date d'ailleurs de l'effondrement du communisme, de la disparition de l'URSS, de la chute du mur, et là, contrairement à beaucoup d'autres pays socialistes qui vont évoluer, ou de pays alliés de l'URSS qui vont évoluer, comme la Corée du Nord, Castro reste sur une ligne marxiste. Même si l'URSS se désintègre, nous résisterons plutôt à la mort qu'un retour en arrière. C'est assez étonnant, cette position de Castro.
Oui, après les années 60, enfin le début des années 70, donc, on a Fidel Castro aux côtés donc de l'Union soviétique en Afrique, et cette fois-ci, c'est plutôt pour lutter contre des guérillas plus ou moins pro-occidentales. Et avec l'effondrement de l'Union soviétique, on a un Fidel Castro qui refuse finalement de renier cet activisme révolutionnaire sans l'Union soviétique ou à côté de l'Union soviétique ensuite dans les années 70, c'est-à-dire en Afrique. Nous avons un Fidel Castro qui va vouloir tenir. Les observateurs ne donnent pas cher d'ailleurs de la peau du castrisme. On a l'impression qu'avec cette Union soviétique effondrée et qui tenait à bout de bras l'île, c'est la catastrophe qui menace Fidel Castro. 4 milliards de dollars sont donnés par l'Union soviétique et le camp socialiste pour soutenir l'île. Eh bien, ça s'effondre, ça s'arrête.
Le pétrole.
Et le pétrole.
Il y a déjà le blocus américain.
Le pétrole, les machines, l'achat du sucre, etc. Enfin, c'est formidable. Comme aide, ça s'interrompt et on a vraiment l'impression que c'est la fin. Et c'est là qu'il y a un coup de génie de la part de Fidel Castro. Il ouvre ce qu'il appelle la période spéciale en temps de paix, ouvre le pays au tourisme, beaucoup plus largement qu'il ne l'était auparavant. Il permet les remessas, c'est-à-dire les aides de la diaspora des exilés d'arriver dans l'île, donc envoi de dollars et dollarisation de l'île. Et bien sûr, ce ne sont pas des mesures très orthodoxes sur le plan du marxisme-léninisme, mais elles vont lui permettre de tenir.
Oui, de tenir face à des manifestations de mécontentement, parce que c'est tout de même la pénurie. Ce sont des manifestations qui se produisent en 1980, des départs massifs, et aussi en 1994, des affrontements entre partisans et adversaires du régime. France Inter, Frédéric Barrère, le 8 août 1994.
Le calme est revenu à La Havane après les violents affrontements qui ont opposé vendredi des milliers de manifestants aux forces de police et aux partisans de Fidel Castro. Des dizaines de milliers de Cubains se sont rassemblés à La Havane pour témoigner leur appui à la révolution et à Fidel Castro.
Nous vivons une période spéciale, une des plus difficiles de notre histoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes seuls contre l'Empire. Et que nous manque-t-il pour affronter l'Empire ? Il nous manque l'unité, le courage, le patriotisme et l'esprit révolutionnaire. Un peuple faible et lâche capitule et retourne à l'esclavage. Jamais un peuple honorable et courageux ne capitule ni ne retourne à l'esclavage.
Et c'était Fidel Castro lui-même à La Havane en 94. Comment expliquer, Pierre Rigoulot, que cet homme puisse rester populaire, au moins dans une bonne partie de la population, 35 ans après son arrivée au pouvoir, là nous étions en 94, et malgré les privations que supportent et qu'ont supporté les Cubains, et aussi, là on n'en a pas parlé, la brutalité du régime, brutalité dont il a fait preuve dès le début, dès sa naissance en 1959, Pierre Rigoulot.
En 1959, il y a une épuration assez dure qui se fait. Un certain nombre de gens qui sont exécutés. Les chiffres sont méconnus. Ce sont quelques centaines probablement de gens. Mais c'est aussi la pression, j'allais dire, le contrôle idéologique, la surveillance d'une partie de la population, la mise en place de ce qu'on appelle les comités de défense de la Révolution qui quadrillent l'île. Et les conditions donc faites à la liberté individuelle, les conditions faites au... La vie matérielle des gens vont en pousser un certain nombre, comme vous le savez, vers l'exil. On part sur des radeaux de fortune. C'est extrêmement dangereux pour atteindre les côtes de Floride. On s'inscrira un peu plus tard dans sur les longues listes à la suite des accords entre les États-Unis et Cuba. Il y a un certain nombre de gens. Aujourd'hui, je crois que c'est 25 000 qui ont l'autorisation de sortir. Donc, effectivement, répression. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu longtemps plusieurs milliers de prisonniers, je dirais politiques au sens où ils étaient franchement hostiles au régime. Aujourd'hui, on compte, enfin en tout cas Amnesty International compte environ 250 personnes à titre politique dans les prisons cubaines.
Sans compter l'épuration au sein même d'ailleurs du parti dans le camp castriste, il y a eu par exemple l'exécution du général Ochoa, compromis dans une affaire de drogue, mais en réalité tout simplement éliminé par le régime. Alors qui s'est aussi lâché du lest, vous l'avez dit, ce par exemple ayant de bons rapports avec le Vatican, puisque le régime a reçu le pape Jean-Paul II il y a quelques années, et puis aussi ce régime qui se flatte, à juste titre sans doute d'ailleurs, de deux de ses succès, non pas sur le plan économique, mais c'est l'éducation et la médecine. Pierre Rigoulot.
Oui, on aurait tort de prendre le régime de Castro pour le régime de Duvalier ou de Bokassa. Il y a effectivement des universités qui sont ouvertes, il y a davantage de diplômés, il y a un véritable enseignement. Cela dit, après tout, Staline et Kim Il-sung eux aussi ouvraient des universités. Nous sommes dans un régime communiste. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'intérieur même, au sein même de cet enseignement, il y a tout un travail qui est fait pour former l'homme nouveau, pour préparer les esprits à la soumission au socialisme. Mais sur le plan, en effet, de l'éducation, entre guillemets, générale, il y a sans doute un gros effort de fait, comme dans comme en ce qui concerne la médecine. Simplement, dans l'un et dans l'autre cas, on a une politisation extrême. Vous savez qu'un certain nombre de médecins sont envoyés dans ce qu'on appelle les missions internationalistes en Afrique, en Amérique latine et en particulier au Venezuela pour payer l'aide en pétrole de Hugo Chavez.
Venezuela, d'ailleurs, où Chavez, à l'évidence, se considère un peu comme le fils spirituel de Castro. Il a encore à l'étranger, même s'il est de plus en plus isolé, même si beaucoup d'intellectuels depuis belle lurette ont cessé de trouver beaucoup de vertus au régime de Castro, eh bien il a encore quand même de l'influence dans la population, notamment en Amérique latine.
Oui, et c'est pas en tant que marxiste-léniniste, c'est pas en tant que communiste, c'est en tant que, je dirais, résistant à ce qu'on appelle l'Empire. On ne dit plus l'impérialisme, on le dit moins, on dit l'Empire. Mais en tout cas, c'est ainsi que Fidel Castro bénéficie d'un appui de la population latino-américaine et d'une partie de notre extrême gauche.
Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui, on dit auprès par exemple des jeunes Cubains qui n'ont pas connu l'époque révolutionnaire, même s'ils l'apprennent à l'école, quels sont les sentiments de ces jeunes Cubains d'après la Révolution, bien après la Révolution, vis-à-vis de Castro, de l'homme qui vient de quitter le pouvoir hier?
Il y a beaucoup de dépolitisation chez ces jeunes Cubains, chez les plus jeunes des Cubains. On ne s'intéresse pas à la politique et, par exemple, ce qui nous a tenus en haleine ces derniers jours ne les a pas beaucoup intéressés. Mais il y a des refus qui se manifestent d'autres façons, par la musique, par le goût pour les objets qui viennent de l'Occident, et pour la consommation occidentale, pour la volonté de voyager, etc.
Merci Pierre Rigoulot. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre sur l'histoire de Cuba, Coucher de soleil sur la Havane, la Cuba de Castro, publié l'an dernier aux éditions Flammarion. À lire également Fidel Castro, une mort annoncée, de Léa Garrigue et Alexandre Hérault, publié aux éditions Edith. Et puis Fidel Castro, biographie à deux voix d'Ignacio Ramonet, écrit à l'issue de ses entretiens avec Fidel Castro, publié chez Fayard dans la collection Galilée. Vous avez pu entendre des extraits d'un documentaire, Fidel Castro, de Terence McKenna, récemment diffusé sur la chaîne Histoire. Je signale enfin la projection de Cuban Story, un documentaire de Victor Palen, filmé en 59 lors de la prise du pouvoir par Castro et présenté par Errol Flynn. À voir donc le lundi 3 mars à 19h au cinéma, le Latina à Paris. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Olivier Daligo, Benoît Massir, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gidry et Caroline Chausset, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la Révolution française et les femmes.